Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain en compagnie de Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour Sébastien.
Eh bien Michel qui est administrateur au Toulousain de Toulouse et qui, avec qui nous menons depuis l'an dernier cette série de chroniques autour des demeures et familles toulousaines, nous amène aujourd'hui à l'hôtel de Mansancal. Qui se trouve où cet hôtel, Michel ?
Alors, dans le quartier parlementaire, l'ancien capitoulat de Saint-Barthélemy, qui regroupe d'ailleurs tout ce quartier. Nous sommes l'immeuble se trouve 1 rue Espinasse. Et cette rue Espinasse commence à ce qu'on appelle la place Perchepinte et finit, à la rue des Fleurs. On est tout près de la cour d'appel, c'est-à-dire de l'ancien Parlement.
C'est une parallèle à la rue Ozène.
Et c'est, on la voit d'ailleurs, on voit une entrée d'hôtel depuis la rue Ozène. Mais cet hôtel est dans la rue, on ne le distingue pas depuis la rue Ozène. Par contre, on voit très bien émerger la tour de cet hôtel, puisque c'était une des plus hautes de Toulouse. S'imaginer la flèche de la Dalbat jusqu'en 1926, ouais. Et la tour de l'hôtel Mansancal qui émergeait de ce quartier.
Donc, sur un hôtel qui, on va en parler un peu, architecture et personnages autour de cet hôtel.
Demeures et familles, qui nous occupent depuis un certain temps. Alors, il ne faut pas le confondre avec l'hôtel de Sevin-Mansancal, donc deux familles qui s'étaient réunies, qui lui se trouve 3 rue Fermat, donc tout près de la place Saint-Scarbe, pas loin de... vraiment à côté de Saint-Étienne, et qui, lui, est plutôt un pastiche renaissance du 19e siècle. Les familles sont les mêmes, mais ce n'est pas cet hôtel dont nous allons parler. Cet édifice a été inscrit partiellement en 1925.
Comme monument historique,
inscrit. Il faut dire que c'était un des plus beaux hôtels de la toute première Renaissance, puisqu'il a été construit entre 1527 et 1547, d'après notre source qui est toujours Jules Chalande, un auteur toulousain spécialisé dans le patrimoine autour de 1900, fin 19e, début 20e, et qui a écrit une monumentale étude sur les rues de Toulouse. Donc ça nous aide beaucoup. Cet hôtel est construit pour un premier président au Parlement, Jean de Mansancal. Nous avons son tableau, plus exactement, l'original se trouve dans la chambre dorée de la cour d'appel, qui elle-même a été créée au XVIIe siècle.
Pour les journées du patrimoine, par contre.
Qui approchent, en tout cas qui sont fin septembre. Et nous avons... une façade sur jardin qui était autrefois spectaculaire avec ses 5 travées ordonnancées et sculptées. Il n'en reste plus que 2. La vie de cet hôtel a été assez mouvementée, mais je pense que pour nos auditeurs, ça va être très évocateur de leurs jeunes années ou celles de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants. Vous allez voir pourquoi. On ne peut pas tellement parler de Jean de Mansancal parce qu'en tant que premier président, c'est un personnage éminent. On sait qu'avant 1550, la place est faite aux humanistes, c'est-à-dire aux savants, aux hommes de lettres cultivés, et il est tellement reconnu de son temps qu'on le juge, ses contemporains le jugent comme un savant jusqu'aux dents.
Jusqu'aux dents, belle expression.
Mais j'espère que c'était même plus haut. Voilà. Il est tellement lettré, c'est-à-dire cultivé, ça suppose une bibliothèque, ça suppose des contacts, ça suppose des voyages, que cette façade sur jardin, qui est la plus ornée, l'entrée étant plus ordinaire sur la rue Espinasse, qui s'appelait autrefois cette rue, donne corail. La rue Espinasse est assez du 20e siècle. Oui. Et donne corail, d'après Chalande, serait en fait une altération de dame de corail. Enfin, un nom de rue au nom d'une
dame,
de la gente féminine, ouais. Absolument. Donc, si vous voulez, la façade, donc on ne voit plus que 2 travées, c'est-à-dire 2 fenêtres sur 3 niveaux, ouais. Plus sur le rez-de-chaussée, qui se trouvaient sur le jardin et qui, elle, peut être visitée, à condition de pouvoir rentrer dans l'immeuble, est un catalogue de l'architecture classique, Renaissance, importée depuis Toulouse, depuis l'Italie certainement, mais qui est vraiment une nouveauté à Toulouse. Et on n'a pas tellement d'exemples dans le quartier, si ce n'est les hôtels Béringuier et Meynier, que nous avons déjà étudiés, et à Césat. Donc c'est vraiment ce langage-là qui a été repris sur le jardin. Alors c'est une tête magnifique.
On est bien sûr sur un hôtel de briques.
Briques et pierres.
Briques et pierres, voilà. Voilà.
Là, je ne sais pas si on a retrouvé ou si on connaît les bois à besogne, mais en tout cas, on est bien dans ce langage briques et pierres, et le prix devait être à la hauteur. Alors, nous avons bien insisté en disant qu'il avait été très remanié et altéré au siècle suivant. Et la surface de l'hôtel, avec ses dépendances bien sûr, a été fortement réduite. Au XVIIe, on rentrait par la place Perchepinte. Et aujourd'hui, voilà où je voulais en venir, c'est la porte d'entrée avec une jolie façade qui ressemble à une chapelle, de la pension, en tout cas de l'institution privée, Saint-Thomas d'Aquin. Que je me rappelle...
Une pension de jeune fille.
D'enfant, mixte, absolument. Oui. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était encore la pension Bertrand. Et qui n'a pas mis son enfant, oui, par la pension Bertrand. Voilà. Donc, en fait, c'est au fil du temps, la parcelle de cet hôtel avec ses dépendances a été reprise par les Dominicains. Et dans le dernier quart du 19e siècle, les Dominicains sont partis dans les années 68 à Rangueil, bien sûr. Eh bien, tout a été repris par cette institution scolaire. En fait, le pouvoir parlementaire, jusqu'à la Révolution, cherchait la proximité avec l'hôtel. Hein. C'était vraiment... pour cela, Jean de Mansancal a acheté plusieurs maisons dans la rue Don Corail, pour y faire construire son hôtel. Et cet hôtel est certainement achevé en 1547, mais il continue à acquérir des bâtiments voisins, et notamment un hôtel qui appartient au procureur du général au Parlement, pardon, qui est Jean Gobert de Caminade.
Et qui l'intègre à la bâtisse.
Donc on a quelque chose d'exceptionnel, très grand, très important. Lui-même, ce Jean Gobert de Caminade, est marié à Jeanne de Saint-Félix, fille du président Claude de Saint-Félix, et qui connaît une carrière brillante comme président en 1611 et comme conseiller d'État en 1623. Alors, si on donne ces détails, c'est que on est vraiment au sommet de la pyramide hiérarchique, je dirais, des gens de Parlement, de ces messieurs.
On est dans le haut du pavé de
voilà,
l'élite toulousaine.
Donc, à la fois de l'influence, du pouvoir judiciaire et de l'entre-soi.
Et de l'entre-soi.
Ouais, culturel et matrimonial. Cependant, il faut retenir avant d'évoquer la fin de cet hôtel, enfin de l'histoire plus récente, s'arrêter sur la personnalité du fils de ce Jean Gobert de Caminade qui s'appelle Philippe. Philippe de Caminade, qui en hérite en 1637, c'est un parlementaire, pareil, devenu président. Rappelons que ce sont des charges qui s'achètent
et se vendent.
C'est d'abord un légiste et un réputé et un diplomate distingué. Mais il est surtout fin lettré et connu comme poète qui remporte différents prix à des concours de jeux floraux. L'Églantine en 1622, le Souci en 1625 et la Violette en 1627. On dit même du loup grand Caminade, la floue des Brabes Mondis, d'Oujat, qui est l'auteur de cette phrase. Mon cher Sébastien, je te demande de le traduire en français vulgaire. Voilà. Bon, alors là, tous nos auditeurs vont certainement pouvoir le traduire aisément. Il est aussi dit par Goudouli, réputé juge des flous. Merci. Des fleurs. Il obtient ses lettres de maîtrise la même année et en 1638, il est honoré par Goudouli qui lui dédicace sa troisième florette du Rabelais Mondi. Donc on est au cœur de la culture classique toulousaine. Donc, toutes ces belles existences et trajectoires ont une fin. Celle-ci est assez triste, puisque Philippe de Caminade est victime de la peste qui touche Toulouse et le Lauragais entre 1652 et 1655.
Dévolution à ses descendants, j'imagine.
À sa fille, qui épouse 3 ans plus tard le conseiller en requête Jean-Georges de Garot-Duranty, seigneur de Donneville. un mot pour dire que le rôle des femmes, parce qu'on a toujours, on brode sur ces messieurs, là, les masculins, la gente masculine, exclusivement masculine du Parlement, mais si les rôles étaient bien séparés, j'allais dire, les genres étaient assignés à des rôles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, n'est-ce pas, chacun était très autonome dans son rôle, et je crois que, sans insister, mais il faut bien avoir en tête, et on le dira à chaque émission, que les femmes avaient du pouvoir réel, un pouvoir juridique de signer, de posséder, d'engager et seulement et donc de transmettre.
Et c'est voilà. Le code civil napoléonien qui a restreint leurs droits pendant tout le 19e siècle.
C'est une autre,
c'est une autre débat.
Chronique qu'on aimerait développer ici. Ouais. Bon, donc grâce à la fille de Philippe Caminade qui est devenue madame Garot Duranti, seigneur de Donneville, épouse de son épouse. L'hôtel va vivoter, je dirais, mais avec une. Il faut mettre un petit coup de projecteur sur une activité qu'on cite rarement, c'est celle des philosophes, des savants, des sages.
L'activité de savants.
Qui commence littéraire. Déjà sous Louis XIV. Et cette assemblée littéraire, fondée en 1640 sous le nom de Conférence académique, est plus connue comme la Société des lanternistes, qui réunissait donc des savants et des lettrés toulousains. Voilà, un petit peu avant les Lumières. Il meurt en 1684, ce monsieur Duranti, seigneur de Donneville. Il a quand même 1000 livres à l'hospice de la Grave et toute sa bibliothèque au couvent des Cordeliers, où il avait son mausolée.
Oui.
Quand même extraordinaire. Après la Révolution, l'hôtel passa au marquis de Thoriac, qui lui-même se trouve à bon repos du fait de son mariage avec une mademoiselle de Cambon. Fille d'Héricet, dernier héritier d'Héricet de Bonrepos, et sa fille, qui c'est Madame de Berthier, va créer la pension des dames Berthier, donc, dans la fameuse. Ce qui sera dans la fameuse pension Bertrand.
Là, on est dans les années 1844.
Hein. Oui. Voilà. Même, on dit que Eugénie Montijo, dans ta toute première jeunesse, a fréquenté cette institution.
Ah, oui.
Et puis, nous avons évoqué tout à l'heure le rachat par les Dominicains, donc je n'y reviens pas. Mais si vous rentrez par extraordinaire, soit dans le cadre de l'institution scolaire, soit dans l'immeuble qui s'appelle Jardin de l'Hôtel Dieu Mansancal, vous avez des immeubles récents, des années 1960, la résidence Hôtel de Mansancal, qui est édifiée entre 1968 et 1972. Et si vous allez visiter des personnes, vous verrez tout ce qui reste à la fois du couvent des Dominicains, qui a été démoli, et de la façade sur jardin, réduite à deux travées, de l'hôtel Mansancal.
Deux travées voilà. Sur les cinq.
Exact.
Voilà.
Mais vous pouvez aussi aller à Rangueil, mais ça c'est pour d'autres...
Ça, c'est une autre histoire,
finalité.
Et une autre architecture.
Voilà.
Ben, merci beaucoup Michel de cette évocation d'un hôtel assez discret dans Toulouse, mais quand même important, avec ces deux familles qui l'ont occupé successivement. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine à tous. Merci, Sébastien.